Bienvenue à Une chance qu'on s'aime. Bienvenue à Une chance qu'on s'aime. Je m'appelle Pierre Lecoud. Je suis toujours et encore en compagnie de mon ami Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA.
Salut Pierre-Luc.
PA, je suis très content qu'on commence cette saison 2 avec notre invitée Véronique Bouchard. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Cuisiner sans recette ». Puis je me souviens, quand on avait terminé la saison 1 ensemble, on parlait beaucoup aussi de « Oui, mais une fois qu'on a notre légume, là, il faut qu'on le bouffe, il faut qu'on le conserve, il faut pas qu'on le gaspille ». Puis c'est à peu près à ces questions-là que Véronique répond, elle, par son statut de fermière de famille, de fille qui a écrit un livre là-dessus. Alors, elle a vraiment une belle participation à une faire pour comment faire pour maximiser à 100% notre jardin pour pouvoir le manger par la suite.
Ben oui, parce que la finalité, c'est pas le légume qu'on produit au potager ou au jardin, c'est le légume qu'on met dans l'assiette et qu'on mange. Puis ça, c'est important de ne jamais, jamais l'oublier. Puis je crois que d'avoir des maraîchers d'expérience qui nous l'amènent à une autre échelle, parce qu'on s'entend que ça ferme qu'il y a 900 paniers de légumes durant la belle saison et 150 paniers d'hiver, bien, il faut être capable de les conserver, ces légumes-là. Il faut être capable de les sortir au bon moment. Puis des fois, il faut aussi dire aux gens comment les apprêter. Puis ça, Véronique, elle le fait très bien tout au long de la discussion qu'on a avec elle. C'est vraiment généreux de sa part.
Oui, puis tu sais, c'est souvent les discussions qu'on a aussi quand on rencontre des gens et qu'on leur parle de jardinage, ça va toujours et très rapidement à « oui, mais je les ai toutes perdues, oui, mais je les ai laissées dans le champ, oui, mais ils ont pourri au sous-sol ». Alors, merci beaucoup Véronique, puis merci à nos commanditaires. Merci à notre commanditaire principal, le réseau des fermières et fermiers de famille, qui nous accompagne dans cette belle aventure de la saison 2 d'Une chance qu'on s'aime. Ben, j'ai dit saison 2. Mais en vérité, moi, ça fait des années que ma fermière de famille m'accompagne dans mon jardin. À chaque année, je me fais bouffer mes brocolis par la cécidomie, fait que je vais voir ma fermière de famille, puis j'achète les siens, ils sont parfaits.
Bon, moi, je vais enfin avoir un break de te donner des conseils que, de toute façon, tu suis même pas. Puis toi, ben, ça va te donner l'occasion de rencontrer la personne qui fait pousser tes légumes bio et locaux. Mais je suis curieux, là, comment t'as fait pour trouver ta fermière de famille?
Ben, j'ai été sur le site du réseau des fermières et fermiers de famille, au fermierdefamille.org. J'ai cliqué sur « panier bio » puis sur « je trouve mon fermier », puis j'ai trouvé tout de suite. C'est la nouvelle façon de manger, ce pays-là.
Ben, c'est pas tout à fait nouveau, là, le RFF Pierre-Luc. Là. Si eux autres, ils soutiennent les maraîchères et les maraîchers là, depuis 25 ans. Ils sont au moins 150 fermières et fermiers de famille, là, de Ottawa à Moncton, en passant par le lac Saint-Jean et la Gaspésie. Là. Tu pourrions même manger ton houmard avec des asperges gaspésiennes, tu sais, là.
C'est vraiment génial parce que ça permet aux consommateurs de se trouver un maraîcher bio et local. Puis ça permet aux fermières et fermiers de rejoindre l'assiette du monde. C'est une belle histoire dans laquelle tout le monde s'aime.
Oh!
Hey PA, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant, ça s'appelle Fertifras.
What the frass?
Non, Fertifras, connais-tu ça?
Non, mais ça sonne comme un engrais à base de déjection d'insectes élevés par tricycle à Montréal, genre 100% bio, 100% local, mais non, je connais pas ça.
Mais là, tu me niaises-tu, c'est exactement ça, c'est de la marde de coquerelle.
Ténébrion.
De la marde de ténébrion comme engrais, penses-tu que c'est bon?
Ben, c'est bio, c'est de l'économie circulaire, puis ça a un NPK de 3,32. C'est sûr que c'est bon.
Puis 3,32 de PFK, c'est-tu bon?
Ben oui, tu te prendras le gros baril en passant, puis ça va être parfait pour ton jardin après.
Hey, Fertifras. Attends de voir la frasse de ma blonde quand je vais lui dire que je fertilise avec de la crotte d'insectes.
Une chance qu'on s'aime. Une chance qu'on s'aime.
Manger local, ça, c'est quelque chose qu'on fait l'été, un petit peu l'automne. Penses-tu qu'on peut étirer ça jusqu'à l'hiver, le manger local?
Oui, bien nous, on offre des paniers à l'année, puis on accompagne nos abonnés pour qu'ils apprennent justement à être capables de manger local en toute saison, avec des trucs comme transformer les légumes de saison pour faire de la lactofermentation, les pousses, aussi différentes façons d'apprêter les légumes racines. Souvent, les gens... ils sont limités à quelques utilisations. Je donne souvent l'exemple du chou. Là. On peut faire plein de choses avec du chou en dehors du cigare au chou. Là. Il existe plein de façons de l'apprêter. Donc, on aide aussi. S'abonner à un panier bio, c'est pas juste avoir un approvisionnement de légumes. C'est ce contact-là aussi avec le fermier, la fermière de famille qui peut donner différentes façons là, de conserver, de transformer, de cuisiner les aliments qui permettent là, de... de découvrir en fait le bonheur de l'alimentation selon les saisons. Puis c'est assez étonnant parce que tu sais, on fait des tomates de serre, on en parlait tout à l'heure, puis quand on arrive en novembre, on a encore des tomates de serre, puis les gens, c'est pas ça qu'ils ont envie de manger, là. Ils ont envie de manger du potage de courge, ils ont envie de se faire des plats mijotés. Fait que quand les gens découvrent cette alimentation-là selon les saisons, on se rend compte que, tu sais, en hiver, ils n'ont pas envie de manger des tomates, ils n'ont pas envie de manger des concombres. Puis c'est comme tout un plaisir de quand c'est la saison, tu te bourres la face jusqu'à t'écœurer, parce que tu passes à autre chose. Fait que cette succession-là des saisons, c'est qu'on découvre cette alimentation-là. Moi, je la trouve bien moins monotone que souvent ce que j'appelle la monotonie de l'abondance à l'année des supermarchés.
Ouais,
il y a rien de spécial à manger une fraise quand t'en as mangé tout l'hiver. Mais quand t'en as pas mangé de tout l'hiver, là, la fraise en juin, là, quand tu mords là-dedans, c'est du bonheur, là.
Ça me rappelle le mariage à Robin Leblanc auquel j'ai assisté. Robin, c'est un autre invité qu'on a cette saison-ci à Une chance qu'on s'aime. Puis lui, c'est un maître de l'autosuffisance. Puis le curé était très sympathique à son mariage. Puis il avait dit, tu sais, si tu donnes à un artiste un mur là de 100 pieds de long par 20 pieds de haut, tu risques de le perdre, puis tu n'auras pas une aussi belle toile que si tu lui donnes un 20 pouces par 20 pouces, puis là, il va te la remplir avec abondance. Donc, cette contrainte-là de la saison, moi, je l'ai toujours vue, ou en tout cas jusqu'à cette discussion-là de ce matin, comme quelque chose de contraignant, tu sais, c'est pas excitant d'être obligé de suivre la saison, mais là, de la manière que tu parles, toi, tu vois que le client, lui, une fois qu'il est initié à ça, il ne veut que ça, il ne demande que ça par la suite, là.
Oui, puis cette alternance-là selon les saisons, ça fait qu'il y a un plaisir renouvelé. Puis j'aime bien comparer aussi avec la saison des couleurs, qui est tellement magnifique au Québec. Si c'était les couleurs à l'année, mais probablement qu'on s'émerveillerait pas autant. Mais comme c'est fixé dans le temps, puis que c'est un bonheur qu'on retrouve à chaque année, on serait émerveillé à chaque année. Puis c'est la même chose avec les saisons agricoles, ça permet de retrouver le bonheur des concombres à chaque année si on s'en passe aussi un peu plus durant l'hiver. Hein.
Le bonheur des concombres, ça, c'est comme un titre de roman que j'ai envie d'écrire. Le bonheur des concombres.
Ben, moi, je pense que c'est plus le bonheur des cornichons que tu vas écrire, te connaissant. Mais
yeah. Si j'arrive à les faire
un livre pour enfants. Ah, mais c'est vraiment inspirant, là, dans le fond, finalement. Les abonnés, ils embarquent là-dedans, Véronique, ou il y en a encore à convaincre, puis à outiller, à former, à éduquer?
Bien, il y en a de toutes les catégories. On en a des super convaincus qui sont déjà dans cette approche-là, tu sais, qui cuisinent déjà selon les saisons, puis qui sont capables de cuisiner à partir des aliments disponibles. Puis il y en a d'autres qui sont pris dans la culture de la recette où ils doivent suivre une recette. Et puis là, ben dans ma recette, ça demande du céleri. Là, il faut que j'aille acheter du céleri. Il n'y en a pas dans mon panier. Mais non, mais tu peux mettre du fenouil à la place. Ou si on est en hiver, tu vas mettre du céleri rave. Puis toute cette connaissance-là de qu'est-ce qu'on peut substituer comme aliment, comment on peut adapter les recettes, c'est pas évident pour tout le monde. Mais c'est une approche qui se développe. J'ai des abonnés qui me disent, c'est avant... Il y a des gens qui me disent « Avant, je mangeais pas de légumes. » Il y en a qui disent « Avant, je mangeais pas selon les saisons. » Puis qui ont changé, transformé leur alimentation. Puis ce qui est chouette, c'est qu'une fois que les gens ont fait ce changement-là, il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible. Là. On voit pas ça, des gens qui ont développé une alimentation selon les saisons locales, puis qui ils abandonnent, puis ils retournent à autre chose. C'est un peu comme quand on s'est mis à faire du compost ou du recyclage. Qui c'est qui retourne en arrière à mettre ça à la poubelle, là?
Fait que la contrainte devient finalement, comme Pierre-Luc l'a dit, une façon de créer puis de penser autrement. Puis on cuisine beaucoup par instinct. Certains ont plus d'instinct que d'autres. Puis la créativité, ben quand on en a finalement, elle devient infinie. C'est sûr qu'on a une grande influence de ce que nos parents nous ont montré en cuisine. Mais comme tu le dis, si c'est en épicerie, ben là, c'est comme le buffet, c'est un bar ouvert. Puis on fait ce qu'on veut avec tout ce qu'il y a finalement disponible. Fait que c'est... Tu dois pas cuisiner beaucoup d'ananas, là, dans le fond, là, de ton côté l'hiver, j'imagine. Là.
Non, mais aussi, tu sais, j'aime bien rappeler que, tu sais, l'alimentation locale, pour moi, c'est pas un dogme, là. Je veux pas qu'on en fasse une secte dont je serais un gourou, là. Moi-même, je bois du café chaque matin, puis j'aime ça mettre une banane dans mon smoothie. Mais, tu sais, l'idée, c'est de manger le plus local possible, puis aussi de développer aussi un peu la conscience de... la valeur inestimable de ces produits-là importés, la chance qu'on a de pouvoir manger du chocolat, boire du café, puis d'avoir la gratitude et, tu sais, justement le respect pour ces aliments-là, puis pas les prendre pour acquis parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, en fait, on nous annonce que café et chocolat deviendront des produits de luxe, là. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on devrait en prendre conscience puis encourager des modes de production qui vont nous permettre de peut-être pouvoir continuer à boire du café puis manger du chocolat pour plus que 10 ans encore, là.
Oui, puis de célébrer là, la chance qu'on a d'avoir des bleuets, puis des canneberges, puis tu sais, on est souvent, là, au Québec, on n'est pas chanceux, on a l'hiver, là, là, mais tu sais, l'autre côté là, de la médaille là, est splendide, là, tu sais, on a des choses qui n'ont pas dans le sud et qui sont extraordinaires aussi, là.
Ben, on réalise pas que, tu sais, dans d'autres pays, manger une pomme, c'est hautement exotique, là, tu sais, pour nous. Mm. La pomme, c'est notre fruit local, mais pour les pays du Sud, manger des pommes, c'est aussi exotique que pour nous manger un ananas.
Là. Peut-être qu'il va y avoir un retour en arrière, comme tu dis, avec les changements climatiques. Là. L'autre fois, je suis allé voir le spectacle de Virginie Fortin, puis elle disait que peut-être qu'un jour, on va revenir à l'orange dans le Bon Noël, comme quoi que c'est le cadeau ultime, comme nos parents ou grands-parents, dépendamment de l'âge qu'on a, recevaient, eux, quand il était jeune, fait que ça va peut-être devenir une rareté, on le sait pas plus tard. C'est peut-être là aussi que l'agriculture québécoise locale et le jardinage domestique aussi en parallèle, en complément, va encore plus. Ce besoin-là va être encore plus grand finalement d'avoir des gens comme toi ou des gens qui jardinent à la maison, là.
Ben oui, puis tu sais, on parle, il mangeait pas d'orange tout le temps, mais il y avait autre chose aussi dans cette alimentation-là de l'époque. On a un peu, avec la marchandisation de l'alimentation, des choses qu'on a laissé tomber, on en parlait, tu sais, les rituels, le sens aussi, tu sais, de prendre le temps de bien manger, de... Tu sais, si on fait plus la prière avant le repas, mais peut-être qu'on pourrait quand même avoir cette pensée-là de gratitude, tu sais, envers les ressources, le travail qui ont été nécessaires pour nous fournir ces aliments-là, puis les traiter avec respect aussi. Je pense que le gaspillage alimentaire illustre bien le peu de valeur qu'on accorde à l'alimentation. Au Canada, c'est 58% des aliments qui sont gaspillés. C'est énorme, tu sais, si on avait plus, on respectait, on accordait plus de valeur aux aliments, on en gaspillerait forcément beaucoup moins. Puis tu sais, je pense que les plus beaux commentaires que j'ai de mes abonnés de Panier Bio, c'est quand ils me disent « Maintenant qu'on comprend tout le travail qu'il y a derrière, tout ce que ça prend pour faire pousser des légumes, on veut pas en perdre un seul morceau, on fait des bouillons avec les fans des légumes, on veut vraiment rien perdre de notre panier. » Moi, quand mes abonnés me disent ça, je me dis « Wow, on était bien au-delà de juste fournir des légumes. On a vraiment amené une transformation profonde dans la culture alimentaire de notre communauté.
Ouais, mais c'est quand même tout un défi parce que même moi puis d'autres amis que j'ai qui jardinent, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment loin de ce 58%-là. T'sais, même si moi, là je veux, j'investis beaucoup d'énergie dans mon jardin, et j'ai un bon pourcentage de mes tomates italiennes qui finissent à terre pour tout l'hiver. Puis c'est difficile, là, des fois, de récolter. Je trouve ça plus difficile que de partir le jardin. T'sais. Fait que c'est quand même un bon défi, je trouve. Là, même quand on a un attachement, sentiment d'appartenance avec son brocoli, là, c'est un bon défi, l'absence de gaspillage.
Ben moi, j'ai découvert la congélation là, comme mode de conservation extraordinaire. Là. Fait que là, moi, j'ai pas le temps de transformer l'été mes tomates, les fraises, plein de choses que j'ai pas le temps de transformer. Je fais juste rapidement en enlever, tu sais, comme tu arranges ton morceau de tomate qui un petit morceau qui est en train de pourrir, tu l'enlèves, tu mets ça au congélateur. Puis là, plus tard, là, à l'automne, il fait frais. Fait que là, tu peux faire marcher ta cuisinière, chauffer ta maison avec tes chaudrons, puis là, décongèle ça, fais de la sauce tomate. Fait que moi, j'ai vraiment découvert la congélation comme un mode de conservation qui...
Un antichambre.
Oui, c'est comme mettre sur pause. C'est même si souvent, je sais pas, je pars une couple de jours, avant de partir, j'ouvre mon frigo, je regarde, ce restant de sauce tomate-là, pas sûr qu'il va être encore bon, je le prends, je le mets au congélateur. C'est comme mettre tous les aliments sur pause. Ça m'a permis, quand j'ai découvert à quel point la congélation est un allié anti-gaspillage, là, de réduire énormément le gaspillage dans mon frigo, puis aussi des récoltes, là, parce que j'avais pas le temps de me faire des soirées de canage. À un moment donné, j'ai compris que mettre ça dans le congélateur, c'est super. Puis tu sais, la congélation, les nouveaux congélateurs sont vraiment très éco-énergétiques. Puis, il y a juste durant l'été que finalement, la consommation nette du congélateur, d'un point de vue thermodynamique, là, durant l'hiver, ben ça chauffe la maison, la perte d'énergie, tu sais, ouais, est sous forme de chaleur. Fait que finalement, il y a juste durant les quelques mois où il fait chaud qu'on consomme vraiment de l'énergie pour la congélation. C'est un mode de conservation ultra efficace, puis qui garde beaucoup aussi des nutriments par rapport à d'autres modes de conservation. Et que, tu sais, souvent, les gens ont des préjugés envers la congélation, que c'est moins nutritif, mais tu sais, un brocoli qui a été congelé frais est beaucoup plus nutritif qu'un brocoli frais en hiver qui vient de la Californie. Il contient plus de nutriments.
Je vais juste te mettre en boîte et te challenger, Véronique, mais mon concombre, je peux pas le congeler. Mon pickle.
C'est sûr que là, il y a les, t'sais, la laitue et le concombre, on ne pourra pas les congeler, mais sinon, il y a plein d'autres. Les haricots, les poivrons.
Ouais, les fèves. Les fèves, je peux les soigner direct. Faut-tu que j'ai blanchi ça avant de les envoyer au congélateur?
Ben, ça va mieux préserver la texture. Ça aussi, ça va inhiber les enzymes. Là. Fait que c'est préférable de le faire, mais c'est pas nécessaire si on n'a pas le temps. Là. Je pense que c'est mieux de les mettre au congélateur tel quel si on n'a pas le temps. Si on a le temps de les blanchir, tant mieux. Là. Puis, tu sais, quand on parle de blanchir, c'est vraiment juste plonger dans l'eau bouillante une minute. Là. C'est pas de les faire cuire. Là. C'est vraiment juste tuer les enzymes.
Puis, pour les autres, là, on pourrait faire un survol rapide, là, admettons, toi, tes patates, navets, carottes, betteraves, t'es gardes comment? Qu'est-ce que tu fais pour les garder longtemps?
Bien, à la ferme, on a des super bonnes chambres froides, là, avec taux d'humidité et température contrôlée. Fait qu'on les garde on les récolte dans des grosses bennes de bois, puis là, ça se garde. On a encore là, des super bonnes carottes. Les gens font des fois des gros détours pour venir chercher nos carottes, parce que semble-t-il que celles de l'épicerie goûtent vraiment pas pareil, mais on réussit à avoir des super bonnes carottes dans nos chambres froides jusqu'en juin. Fait que c'est certain que dans notre frigo de maison, on ne va pas les garder dans d'aussi bonnes conditions aussi longtemps, mais sinon, le réfrigérateur, on peut garder nos légumes racines vraiment très longtemps aussi. Il faut juste faire attention.
Puis ta chambre froide, c'est quoi sa température et son taux d'humidité?
0,5 degrés, 95% d'humidité et plus.
Ah ouais? 0,5 degrés, tout près de la congélation.
Ben, entre 0 et 1, ouais.
Puis l'humidité, répète, s'il te plaît.
95% d'humidité. Fait que,
Très humide et très froid.
Très humide et très froid, c'est ça qui nous permet là, d'avoir des carottes encore super bonnes puis croquantes à ce temps-ci de l'année. Mais après ça, on les transfère dans un frigo. T'sais, c'est bon encore un mois, deux mois. Faut juste faire attention, nos frigos de maison sont très asséchants. C'est ça qu'il faut les mettre dans les sacs de plastique là, pour éviter qu'ils ramollissent, en fait.
Parce que mon frigo à la maison, lui, est bon au niveau de la température. Je pense que lui, il est à 7 à peu près. Ça doit être quand même pas pire.
D'habitude, il devrait être à 4.
Donc, à 4, ouais. OK. Donc, mon frigo est à 4. Donc, il n'est pas loin, finalement. Il y a une bonne température. Mais l'affaire, c'est qu'il ventile, puis il est sec. Donc, je mets ça dans un sac de plastique que je ferme le plus hermétiquement possible.
Bien, idéalement, tu sais, comme les légumes, c'est vivant, il faudrait qu'ils respirent. Donc, avec des petits trous ou un sac entre-ouvert. C'est l'idéal. Parce que si c'est complètement fermé, trop hermétique, c'est là qu'il peut y avoir là, de la pourriture qui se développe.
Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Là, on enregistre là, le balado. On est à la mi-fin avril. Tu dis que tu as des paniers à l'année. Ça m'épate. Puis, admettons, de ce temps-ci, c'est un panier par semaine, par mois? C'est quoi là?
C'est aux deux semaines pour notre saison d'hiver là, jusqu'à la fin mai. Là, on a commencé à avoir des récoltes de serre. Là, on a récolté du kale, du pak choi, puis des verdures, le mesclun, roquette, qui viennent de la serre. On devrait récolter nos premières tomates cerises là, d'ici 10 à 15 jours. Hein. Déjà, là, on va commencer à avoir un petit peu de récolte de serre. Mais sinon, le gros des récoltes de serre va commencer plus début juin. Puis, ben, on complète avec carottes, betteraves qu'on a encore. Céleri rave. Il nous reste encore des choux, il nous reste encore de la chicorée, pain de sucre, qui est un légume que j'ai découvert, je capote. Là,
la chicorée?
Ça a la texture d'une laitue romaine.
Ça fait-tu des chics?
Mais en fait, ça vient peut-être de... Je sais pas si tu m'amènes sur les chicons, les endives, c'est des chicons qu'on appelle. Hein. Okay. En fait, c'est la même... C'est vraiment des légumes très, très proches. D'ailleurs, ça a vraiment le goût d'une endive. L'amertume, le croquant aussi. Sauf que c'est comme une grosse laitue. Puis on a récolté ça en octobre en champ. On la garde dans notre chambre froide, la même que les carottes. Puis on mange encore de la salade de chicorée, puis elle est encore croquante. Elle a encore cette texture-là. Je trouve ça hallucinant qu'un... Tu sais, parce qu'on conserve bien des racines, ça va, c'est très dense, mais qu'on ait un légume feuille comme ça qui se conserve aussi longtemps, je trouve ça hallucinant là, de pouvoir avoir ça pour complémenter là, dans nos paniers. Ça amène vraiment une verdure super intéressante.
Récolté depuis octobre, là, ça fait un bail là, quand même. Là. Si on est rendu en avril, là, fin avril, là, c'est long, ça.
C'est long. C'est sûr que, tu sais, comme les choux, on a enlevé plusieurs feuilles autour.
Oui.
On a enlevé plusieurs feuilles autour. Fait que, tu sais, la pomme, elle a rétréci. Le chou ou la pomme de chicorée, ils ont rétréci. Ils sont moins grosses qu'elles étaient parce que les feuilles extérieures ont commencé à pourrir, mais ça fait partie de la réalité aussi de la conservation des légumes. Là. Plus on avance dans la saison, plus il y a un certain tri à faire.
C'est quand même un panier qui est assez éclaté. Là. Quand tu penses légumes racines, quelques légumes feuilles, puis dont certains qui sont frais récoltés parce qu'ils viennent de pousser en serre, c'est cool. Là. Puis t'as combien d'abonnés l'hiver, puis à ce temps-ci de l'année, au printemps?
Ben, on en a vraiment... Tu sais, là, on en a 150 durant l'hiver.
Quand même. Okay.
Sur deux points de chute de 75, donc on fait comme 75 paniers par semaine.
Ouais.
Puis, tu sais, en saison, là, on vise, comme les deux dernières années, à remonter à 950 familles abonnées. Okay. Fait que ça montre que l'été, c'est vraiment plus facile d'aller chercher des abonnements l'été. Mais il y a aussi un enjeu d'espace. C'est très difficile de trouver un espace intérieur pour faire de la distribution de paniers durant l'hiver. Donc ça nous limite vraiment beaucoup. On peut juste ouvrir deux points de chute, puis on est limité aussi dans l'espace. Mais la demande n'est pas là. Aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont envie des fois d'avoir un break de routine, de d'être là à chaque semaine.
De bonne valeur. Prendre un break. Après ça, ils se mettent à boire du scotch à la bouteille, puis sont écœurés d'être des bons citoyens. Mais okay, c'est la demande. Donc, mais s'il y avait plus de demandes, ça serait possible pour toi de pouvoir fournir? Mettons, tu te montrais à 300 là, paniers l'hiver, ça serait-tu possible pour vous autres?
Avec nos installations, je pense pas qu'on serait capable de autant de... Ben, faudrait faire des bons changements parce qu'on utilise... On a 4 chambres froides à la ferme, puis là, ce temps-ci de l'année, on a juste une chambre froide avec des légumes dedans. Puis les autres chambres froides ont servi de chambre de culture. On met des lampes dedans, puis on part nos premiers transplants. Ça nous permet d'économiser sur les coûts de chauffage puis rentrer plus tard dans les serres.
Ouais, tes clients, ils ont-tu un jardin?
J'ai beaucoup de clients qui ont des jardins, mais tu sais, on est dans les Laurentides, puis nous, on est dans la vallée. Nous, on a comme un bon climat. Puis les gens, souvent, ils se font des petits jardins, mais ils sont plus hauts dans la montagne, ils sont au pays du chevreuil. Fait que c'est difficile, mais ça fait les meilleurs clients. Ceux qui ont des jardins sont souvent, disons, plus reconnaissants de la valeur de notre travail.
T'as pas besoin de le dire, on le sait que ceux qui ont un jardin, c'est les meilleurs.
Oui, mais on vend des plants de jardin aussi beaucoup aux locaux qui se font des jardins. Puis souvent, je dis, bon, on leur vend des plants de jardin, là, ils se font manger leurs plants de jardin par des chevreuils. Puis après ça, ils viennent nous acheter des légumes.
C'est bon, ben c'est un peu le discours qu'on tient, Véronique, dans le fond. Tu sais, si t'es pas capable de réussir des choux-fleurs, ben va voir ta fermière de famille à ferme aux petits oignons ou ailleurs, là, finalement, dans le réseau. Mais tu sais, il y a des légumes plus difficiles que d'autres à faire pousser, puis il y a des situations où il y a plus de chevreuils que d'autres, finalement, sur nos terrains. Fait que vous êtes là pour compléter le reste de l'offre, à mon avis. Là. C'est un complément.
Oui, puis tu sais, il y a des jardiniers aussi, tu sais, que c'est facile, là, tu mets quelques plants de tomates, des fines herbes, puis tu récoltes ça au fur et à mesure. Mais tu sais, quand on parle de produire sa coriandre, c'est un bel exemple, mais tu sais, il faut que tu en sèmes à chaque semaine. Donc là, il faut vraiment, tu sais, des jardiniers motivés de penser à se repartir de la coriandre à chaque semaine, pour toujours avoir de la belle coriandre fraîche qui ne monte pas en graines. Même chose pour la laitue, tu sais, souvent les gens, ils vont se comme se partir 25 laitues. Ah! Oh, 25 ouais. laitues prêts en même temps. Oups! Puis après ça, plus de laitues. C'est quand on a des petits volumes puis on veut avoir, je sais pas moi, 2 laitues par semaine. C'est bizarre de faire des semis pour 2 laitues par semaine. Puis c'est là que ben, nous, on fait des laitues pour 950 familles. On en part
à chaque semaine.
Puis on en récolte à chaque semaine.
Ouais, ça se congèle mal.
Qu'est-ce qu'on fait contre les chevreuils? Faut-tu mettre des cheveux dans le jardin? Puis... Y a-tu un truc contre ça? À part le 12, là?
Ben, un bon chien
okay.
qui patrouille le jardin. Puis sinon, ben, de la clôture de au moins 8 pieds de haut. Nous autres, c'est ça qu'on fait. On fait ça pour notre carré de carottes.
Okay. Ah
ouais. Pour le reste, ils font moins de gros ravages, mais les carottes, on dirait que le mot s'est passé dans la communauté de chevreuils des
environs. Ils ont pas encore environs, peur de ça, eux autres. Ils devraient commencer à se méfier parce que les chasseurs aussi, ils utilisent la carotte.
Ouais, mais on a la chance parce qu'on est dans une vallée, puis nos jardins sont relativement loin de la forêt. Fait que pour s'aventurer jusqu'ici, il faut que les chevreuils soient quand même traversent des espaces à découvert. Donc, ils aiment pas ça se retrouver dans la plaine. C'est pas leur espace naturel. Mais quand ils ont découvert les carottes, par contre, là, ils sont prêts à parcourir plus de plaines pour venir trouver les carottes. Mais là, ma prochaine bête qui m'inquiète le plus, c'est la dinde sauvage. Là, oui. On commence à en avoir vraiment beaucoup. Là, ça vient en gang, puis ça peut manger vraiment. Ils ont terminé de manger nos cotons de cage cet hiver, là, puis c'est fou, là, ils ont vraiment tout mangé. C'est parfait, là, ça va se décomposer plus vite, mais si elles se mettent à arriver plus tôt dans le jardin, là, ça pourrait devenir problématique.
Ben, si ça reste comme ça, au moins, ils vont fertiliser un peu en même temps qu'ils vont manger un peu de kale, là, tu sais.
C'est ça. Moi, c'est si on peut avoir cette cohabitation-là avec les dindes, c'est parfait, c'est mes amis.
Ouais, mais c'est vrai qu'en campagne, je pense que j'ai vu un troupeau qui devait être 200 l'année passée dans mon coin au centre du Québec, là, à Tinouic. C'était épouvantable. J'avais jamais vu ça, autant de dindes sauvages dans un même lieu. Là.
Mais as-tu essayé le manche de hache, PA? Moi, j'ai essayé le manche de hache avec les marmottes, puis ça marche très, très bien.
C'est plus la pelle ronde, dans mon cas, qui a été un succès. Puis une marmotte, ça nage pas très bien sous l'eau non plus, là, mais c'est ça.
Surtout quand c'est dans une cage.
Ouais, c'est ça. Mais bon, fait que c'est ça. C'est un peu en région éloignée, tu sais, parce que toi, t'es dans le coin de Mont-Tremblant, là, la ferme au Petit-Oignon, ben c'est ça. Veux pas, la nature est à côté, là, est à proximité, fait que c'est un enjeu aussi pour les agriculteurs, les agricultrices.
Ben, on est dans leur environnement naturel.
Ouais, c'est ça.
Souvent, j'aime rappeler aux gens, surtout ceux qui habitent en montagne, qu'ils sont allés s'installer au pays du chevreuil. C'est un peu normal qu'ils se sentent chez eux.
Fait que la grosse clôture pour les carottes, quand on passe en auto devant la ferme aux petits oignons, on dit « Hey, check la grosse clôture, là, ça doit être du cannabis qui pousse là. » Ben non, c'est juste des carottes.
Oui, mais on voit à travers, fait qu'on voit que c'est des carottes.
OK, OK, c'est clean.
Oui. Dans le fond, c'est ça, Véro, la finalité, c'est pas le légume comme tel, mais tu sais, c'est de le cuisiner. Moi, j'ai adoré ton livre qui a un titre qui est un peu comme une antithèse. C'est un livre de recettes qui s'intitule « Cuisiner sans recette ». J'imagine que je suis pas le premier qui te le soulève, cette antithèse-là.
Cette contradiction-là,
ouais.
Ouais,
ben l'idée, c'était de proposer une méthode pour se libérer de la recette. C'est pas de cuisiner totalement sans recette, mais de voir les recettes aussi autrement. Comme des sources d'informations. Soit qu'on suit une recette à la lettre, soit qu'on regarde plusieurs recettes puis qu'on comprend un peu la logique derrière chacune des recettes. Puis après ça, une fois qu'on a compris la logique derrière une recette, après ça, on est capable de reproduire sans voir la recette, puis d'être capable aussi d'adapter en fonction des ingrédients qu'on a. Puis, tu sais, on peut utiliser Internet pour chercher des recettes, s'en inspirer. Avec des mots-clés aussi, si on n'a pas d'un ingrédient dans une recette, on peut taper chili sans tomates en boîte, puis là, tu peux trouver des recettes avec des tomates ou avec tomates fraîches, puis là, tu peux trouver plein de recettes qui te permettent, tu sais, pour ça, tu peux merger 2 recettes pour arriver à faire une recette avec les contraintes qu'on a de disponibilité des aliments, parce que cette approche-là de partir d'une recette puis d'aller à l'épicerie acheter ce qu'il y a dans la recette, forcément, ça amène du gaspillage alimentaire. Pour faire la lutte au gaspillage alimentaire, il faut partir de ce qu'on a dans le frigo puis cuisiner à partir de ça. Ça demande des connaissances, ça demande une part de créativité aussi qui est très peu valorisée dans notre société. C'est retrouver ce plaisir-là aussi, ce droit-là qu'on a aussi de cuisiner sans suivre des recettes. C'est toute cette culture-là des chefs charismatiques, des blogs, mais ça peut miner la confiance des gens où on pense que on ne peut pas faire une recette si elle n'est pas approuvée par Ricardo. Ben non, là. De tous les temps et partout sur la planète, les gens cuisinent des recettes qui ne sont pas approuvées par Ricardo. Mais tu sais, cette culture-là aussi, qui est supposée de nous donner envie de cuisiner, tu sais, je me suis intéressée au phénomène de la recette. Et on se rend compte que plus il y a d'émissions de cuisine, plus moins les gens cuisinent. Puis on se rend compte, finalement, c'est une industrie où on nous vend l'idée de la recette.
Les restaurants?
Ouais.
Puis, tu sais, il y a des gens qui écoutent des blogs puis qui cuisinent pas. C'est comme si le fait d'avoir écouté le blog, ça le satisfait leur besoin de cuisiner, tu sais.
Mais, ah ouais, OK.
Mais ça bouffe du temps aussi, toute cette industrie-là. Les écrans, tu sais, faut les utiliser. J'en parle aussi dans mon livre, d'utiliser judicieusement Internet. Puis, on peut aller chercher de l'information, mais il faut faire attention de ne pas se laisser aspirer par cet univers-là qui est un bouffeur de temps extraordinaire. Ouais. Puis, tu sais, si on se mettait à calculer le nombre de temps qu'on passe devant les écrans, après ça, difficile de dire « j'ai pas le temps de cuisiner ». Juste ferme ton écran, tu auras le temps de cuisiner. Puis aussi, il faut, tu sais, un peu rebâtir notre lien avec la cuisine, parce que cette industrie-là, tu sais, l'industrie agroalimentaire, a tout intérêt à nous faire croire que la cuisine, c'est un fardeau dont on devrait se libérer. Pour consommer du prêt-à-manger, pour aller au restaurant, parce que pour nous vendre des produits, finalement, on nous disait, tu sais, ouais, on cuisine pas, on fait venir telle boîte de prêt-à-manger. Alors que cuisiner, c'est une super belle activité qu'on peut faire en famille, en amis, en couple. Puis, tu sais, c'est ça, je propose aussi différentes façons. Il y a comme cette culture-là commerciale dominante, mais notre culture culinaire, faut se la réapproprier, puis. C'est juste le fait de recevoir des amis. Au lieu de tout cuisiner, puis on reçoit les amis, puis là, on les invite, ils cuisinent avec nous. Tu sais, se faire des sushis en gang d'amis, c'est donc bien le fun. Tout le monde participe à préparer les aliments. Fait que là, au lieu que ce soit une corvée, ça devient une activité. Fait que c'est pas juste manger, la préparation peut faire partie aussi. L'activité.
C'est un moment zen, à la limite, tu sais, cuisiner, là. Si t'as une job qui est très prenante, quand tu cuisines, c'est peut-être l'heure dans ta journée où tu décroches, que t'as un focus qui est quand même, somme toute, réduit sur tailler un légume de la bonne façon. Tu y penses en le faisant, mais tu penses plus à tes soucis de travail, là. Moi, en tout cas, je trouve ça cool, là, ce que tu dis. Des sushis à gang chez Pierre-Luc, c'est un classique, là.
Oh yeah!
On les roule ensemble avec les enfants aussi, parce que les enfants, après, ils l'apprennent de cette
très
façon-là.
Trop, là.
C'est ça, tu sais, c'est top, c'est génial. C'est-à-dire, tu sais, c'est tellement... En plus, ce qui est fou, c'est que c'est quand même une chef qui écrit ta préface. Fait qu'il faut lâcher du dogme des chefs qui sont peut-être des stars, puis de dire que la recette doit être comme ça. Je pense que Colombe, j'ai jamais mangé à sa table, mais j'imagine qu'elle a une vision de la chose, là, pour l'avoir vue dans différentes interventions médiatiques, elle, que c'est ça, c'est très locavore, c'est très saisonnier, puis qu'à un moment donné, on peut substituer un aliment par un autre, puis pas scraper la recette. Fait qu'il faut pas prendre le char, puis émettre des gaz à effet de serre, parce qu'il te manque le citron, finalement, puis tu l'as pas, fais ça, puis... Elle va être bonne pareil, là, ta bouffe, là.
Mettre du jus de batterie, puis ça va faire pareil. Locavore, c'est quoi ça? C'est quand tu manges comme une folle?
C'est quand tu manges local, locavore.
OK.
Ouais, ben c'est ça. Colombe est une pionnière dans cette approche-là culinaire. Puis, tu sais, quand on s'est parlé, tu sais, pour la préface, on se connaissait, tu sais, de l'une l'autre de, bon... Elle me connaissait d'avoir entendu parler de moi par la ferme, par des amis communs, puis c'est comme si on se connaissait depuis toujours, là, puis elle me disait, j'ai jamais cuisiné avec des recettes, puis on avait tellement les mêmes valeurs, puis la même approche aussi, puis toutes les deux, tu sais, on fait notre métier, c'est pas une business, on a envie de transformer nos communautés aussi, puis de les rendre plus écologiques, plus sociales. Tu sais, souvent, j'aime dire que c'est au-delà de produire des légumes, moi, ce qui me motive le plus puis ce qui m'émeut le plus dans mon travail, c'est de faire pousser des communautés, de rassembler des gens puis de partager des savoirs, de co-construire une nouvelle culture, de co-construire l'agroécologie ensemble, parce que finalement, tu sais, les modèles de demain va falloir qu'ils se bâtissent de façon solidaire entre les consommateurs et les producteurs. Puis toute la chaîne de distribution qui passe par les épiceries a complètement court-circuité ce lien-là. Ouais. Les consommateurs mangent ce que l'industrie leur vend à coup de publicité et les producteurs s'adaptent aux besoins de l'industrie. On veut du concombre qui va rentrer 12 par boîte pour faire fitter dans la boîte, qui va fitter à tant de boîtes par palette, puis tant de palettes dans le container, puis c'est ça que le producteur produit. Fait que, dans le fond, les producteurs ne produisent plus ce que les consommateurs veulent, puis les consommateurs ne mangent plus ce que les producteurs devraient ou produire dans une approche justement de... On devrait produire ce qui est écologique dans notre terroir. Donc, ce qu'on mange à Mont-Tremblant, puis ce qu'on mange en Gaspésie ou ce qu'on mange dans le centre du Québec, tu sais, ça devrait pas nécessairement être la même chose.
Hein. Ouais, c'est bien dit. Puis, écoute, l'image, moi, je la revois, là, parce que je reviens à Colombe, je la voyais dans sa cuisine, elle avait les fameux bacs de récolte, tu sais, c'est des crêtes de transport de bulbes, là, à l'origine, puis des poivrons rouges, cornes de taureau, fait que c'était probablement des carmènes. Puis là, dans ma tête, je voyais ça, puis j'étais OK, c'est probablement les poivrons de Richard Favreau qu'on salue, tu sais, qu'elle, finalement, ben, c'est son fermier de famille à elle, tu sais, chez qui elle s'approvisionne, tu sais, j'étais là, wow, là, tu sais, le tout est dans tout, finalement, là, fait que ça, c'est de la cohérence, c'était pas le poivron carré de la grande chaîne, de la grande surface, tout lustré, tout brillant, là, finalement, là, fait que c'est... En tout cas, il m'inspire, ce monde-là aussi, fait que c'était ce que je voulais vous partager.
Je t'écoutais parler, Véronique, je te coupe la parole, PA, parce que ça commençait à être plate, là.
Oui,
J'étais allé, il y a un village pas très loin de chez nous, au centre du Québec, ça s'appelle Saint-Adrien, puis eux autres, ils étaient devenus un désert alimentaire, puis ce que tu racontais, là, c'est exactement à ça qu'ils répondent, là. Une épicerie qui va avoir des surplus, qui va envoyer ça au resto, qui va avoir des surplus, qui va faire des boîtes à lunch ou des repas préparés pour le jardin, tout ça, les jeunes à l'école apprennent à faire le jardin, tout ça, ça vire, cette affaire-là. Puis la dernière fois que je suis allé, il devait être une trentaine là, à côté là, du petit commerce en vrac à faire du kimchi, puis il y avait du fun, là. C'était beau à voir, tu sais, le concept des pluchettes de blé d'Inde aussi, ça fait partie de notre culture, mais t'as pas le choix, il est bon pendant 2 semaines, là, tu sais, ton blé d'Inde, là. Fait que nous, on fait de la sauce asperg en équipe, là, on est une vingtaine qui se ramasse autour du brûleur à PA avec ça, le chaudron de ses parents pour faire tout ça, puis c'est nos plus beaux souvenirs d'été, généralement, là, ces meetings-là.
Ouais, ça nous ramène du rituel dans nos vies. T'sais. On a mis de côté les religions pour différentes raisons, mais on a aussi mis de côté ce rituel-là et le sens aussi souvent qu'on attribue à toutes ces actions-là quotidiennes. T'sais. Manger, c'est quelque chose de quotidien, porteur de sens. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques, qui souffrent, que leur vie manque de sens, qu'ils manquent de rituels. Donc, il y a beaucoup de gens qui retournent vers se ramener à des choses essentielles, ramener du rituel dans leur vie. Puis l'alimentation, l'agriculture, je trouve que c'est un terreau très fertile pour rebâtir justement ce besoin de sens-là et de rituel dans nos vies. Ramener aussi les liens humains. On a une économie tellement déshumanisée. Le produit anonyme, la caissière anonyme, on bâtit plus de liens comme autrefois dans nos communautés où tu connaissais, tu sais, le boulanger, la boulangère. C'est des gens en qui on a confiance, en qui on confie une partie de notre alimentation, mais qui font partie de notre communauté. Puis moi, quand j'ai ce sentiment-là, tu sais, de jouer mon rôle dans la communauté, c'est ça qui m'amène le plus de fierté. Quand je croise des abonnés puis qui me présentent, hey, j'ai ma belle-sœur qui est en visite, ça c'est ma fermière de famille, Véronique, tu sais, j'ai l'impression que je suis un personnage un peu dans ma communauté, tu sais, au même titre que tous les autres rôles importants dans une communauté.
C'est valorisant, ça.
Oui.
Vraiment, là, c'est une belle paix, ça. C'est comme un élève qui passe à ferme et qui réussit. Fait que ça, comme prof, moi, c'est ça l'autre paye après. Là. Puis il y en a plein qui sont allés chez vous en plus, continuer leur formation terrain. Puis ça a donné des bons résultats, je pense. Là.
Oui, 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 oui. C'est ça. On a une belle communauté aussi au Québec où Ouais. Entre fermiers de famille, on se sent pas en compétition les uns avec les autres. Donc, il y a cette culture d'entraide-là et de co-construction d'une culture aussi, là, d'un savoir collectif. Puis ça, c'est unique au monde aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir participé à des rencontres internationales du mouvement d'agriculture biologique. Le mouvement de l'agriculture soutenue par la communauté, le Urgency, qui est l'organisation mondiale. J'ai été à deux rencontres internationales, puis dans ces rencontres-là, là, le Québec, on est les rock stars. Là. Notre réseau des fermiers de famille, ah ouais, il est unique au monde. Il n'y a aucun autre réseau aussi bien structuré. Cette culture-là, tu sais, d'entraide, on la voit pas beaucoup ailleurs. Tu sais, parce que l'agriculture soutenue par la communauté, c'est un réseau solidaire entre des abonnés puis une ferme. Au Québec, on a amené ça à un autre niveau aussi, où on a un réseau solidaire de réseaux solidaires, parce que les fermes sont solidaires entre elles.
C'est bien dit, ça.
Travaillent dans l'entraide. Puis, tu sais, on a eu des fermes dans notre réseau qui ont eu des épisodes de grêle. Puis, tu sais, sans que ce soit écrit nulle part que quand quelqu'un subit de la grêle, on va l'aider spontanément. Les autres fermes se sont mobilisées pour aider la ferme qui est en difficulté. Fait que, tu sais, cette culture-là, elle est vraiment unique. Moi, c'est plate, mais tu sais, comme... Dans bien des domaines, il a fallu que j'aille à l'étranger pour réaliser que ce qu'on avait était aussi précieux et unique. Hein. Fait que là, j'aime bien pouvoir le rappeler quand j'ai l'occasion.
Je vais parler sans savoir, mais j'ai l'impression que quand je voyage, je remarque, on dirait que partout ailleurs au monde, sauf au Québec, il y a ces marchés du samedi, du dimanche, ou en tout cas, bref, en France, il y avait souvent ça, là, des marchés là, la fin de semaine, où est-ce que là, la communauté au complet se réunit, puis là, les agriculteurs vont dans la ville voisine, tout ça, puis on vend des... On n'a pas ça au Québec, fait que j'ai l'impression que ça l'a contribué peut-être au fait que le panier bio est allé prendre une place où est-ce qu'il n'y avait pas, rien déjà, là. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, ben je pense que les marchés se sont développés en parallèle avec les paniers bio. Moi, quand j'ai débuté en agriculture, là, c'est ma 18e saison déjà, ben il n'y avait pas beaucoup de marchés. C'est, ça commençait, on a fait la première année du marché de Mont-Tremblant, première année du marché de Val-d'Aville. Le marché de Val-d'Aville, maintenant, est devenu... très connu. Et,
ça, c'est un marché qui est comme à toutes les semaines ou une fois dans l'été?
Tous les samedis. Puis, tu sais, okay. Souvent, okay. À Val-d'Avid, on dit c'est comme c'est devenu le perron de l'église. Tout le village se ramasse là. Puis, et la communauté se rassemble. Tout le monde se connaît. Ça se fait des câlins comme. Là, un peu moins que la COVID, mais tu sais, c'est vraiment. C'est vraiment un village de câlins. Mais, mais tu sais, le marché est très rassembleur dans cette communauté-là à Val-d'Avid. Mais les paniers, tu sais, nous autres, il fallait qu'on explique le concept des paniers aussi. Fait que j'ai l'impression que les deux se sont quand même développés de façon assez parallèle au Québec. Alors que oui, en France, il y avait déjà la culture des marchés et les AMAP se sont installés. Mais ça serait intéressant de creuser la question. Mais mon expérience des Laurentides, c'est que les deux ont vraiment coévolué. Là. Nous, on a en tout cas coévolué dans ces deux modes de mise en marché-là localement. Puis les deux étaient très peu développés quand on a commencé.
Je pense que la dynamique est quand même variable en fonction des régions au niveau des marchés publics. T'sais, dans ton coin, c'est peut-être plus viable que dans notre coin à nous où l'offre est pas si structurée que ça. Puis même des fois, il y a des endroits qui s'appellent marché public, mais ils s'appellent marché public Inc. Fait que finalement, ben c'est une entreprise privée là où il n'y a pas tant d'agriculteurs, d'agricultrices qui sont présents sur les lieux. Fait que d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, ça c'est variable. Par contre, le réseau des fermiers, des fermières de famille, lui, il est implanté à la grandeur de la province. Le territoire, il est immense. La population est pas si grande. C'est un t'sais, chapeau encore, finalement, au réseau. Parce que c'est ça, c'est grand. Puis c'est pas tant de monde que ça, finalement, mais d'avoir réussi à lier tout ce monde-là ensemble. Puis encore de la place, hein, Véro, pour avoir plus de gens, plus d'abonnés, non?
Oui. Mais oui, c'est sûr qu'on pourrait en prendre plus. Puis on l'a vu avec la COVID, nous, pendant plusieurs années, on était à peu près 50% mise en marché panier, 50% autre vente, là, boutique à la ferme et des marchés. Puis ouais. Avec la COVID, là, les gens avaient peur de manquer de légumes. On savait pas si les marchés allaient avoir lieu. Donc, on est passé là, de 650 à 950 paniers. Les gens disaient, vous avez grossi. Non, on a juste transféré d'une mise en marché à l'autre. Donc, on s'est mis à faire plus de paniers et moins de marchés. Puis moi, j'ai trouvé que c'était une occasion en or de faire grossir cette communauté-là parce qu'il y a un lien qui se bâtit avec le principe de l'agriculture soutenue par la communauté que je ne bâtirai jamais au marché. Et mes abonnés, je leur écris à chaque semaine un petit bulletin, mm-hmm. je leur parle des nouvelles de la ferme, je leur explique, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le champ, je peux leur donner des trucs culinaires, je peux vraiment aller plus loin dans la relation avec les abonnés. On est là aussi au point de chute. Nous, on fait une distribution de paniers où les gens composent leur panier, choisissent ce qu'ils vont mettre dans leur panier.
Sans abonnement.
Ouais, puis on est sur place, c'est comme un happening, ils peuvent nous parler, nous jaser avec nous, puis là on parle beaucoup de ce qui se passe dans le champ, donc je trouve qu'on crée vraiment plus de liens entre le champ puis l'assiette à travers cette forme de mise en marché là aussi, puis ça permet de diminuer le gaspillage énormément parce qu'au marché, tu sais, s'il fait beau ou s'il fait pas beau, je peux comme manquer de légumes quand il fait beau, puis finalement il fait pas beau, je ramène des légumes, je peux avoir de la perte dans les paniers. J'ai un point de chute, j'ai 300 abonnés, j'amène du stock pour 300, il y a pas de perte là, fait que c'est ça qui nous permet aussi super gagnant-gagnant comme formule parce que ouais. Le fait que ce soit bon payé à l'avance, on donne moins d'argent aux banques ou des comptes fournisseurs en payant du crédit. Donc, ces économies-là de frais de crédit, ben ça nous permet d'offrir un prix plus avantageux et aussi la diminution du gaspillage, le fait qu'on sait que les abonnés vont être là parce qu'ils ont un engagement à l'avance. Mais cette diminution-là, tu sais, le gaspillage, ça a un coût là, pour les entreprises. Puis forcément, mm-hmm. souvent quand les gens disent « le bio, c'est cher », ce qui coûte cher à notre système alimentaire, c'est le gaspillage. Faites le calcul, 58% de gaspillage. Il faut produire 2,5 fois la quantité que les gens ont besoin pour arriver à fournir parce qu'il faut compter qu'il y a 58% qu'il faut gaspiller.
Il y a du gaspillage.
C'est complètement inefficace.
Oui, tout à fait.
Donc, tu sais, ça nous permet de pouvoir, tu sais, avoir une agriculture qui est tellement plus écologique que ce qui se trouve à l'épicerie parce que 60 légumes, nous autres, on a 4 hectares en légumes, tu sais, 60 légumes différents. On a une diversité qui ne pourrait être possible dans la chaîne de distribution parce qu'on serait pas assez efficace. Mmh. Il faudrait produire 40 hectares juste de carottes pour atteindre peut-être juste la limite pour être rentable, pour vendre dans des épiceries. Mais ça, c'est des modèles qui sont beaucoup moins écologiques, alors qu'un modèle super diversifié qui n'a pas sa place dans un modèle économique qui passe par la chaîne de distribution pour les supermarchés. Dans un modèle d'ASC, ce modèle-là, il peut se justifier parce qu'on fait des économies sur le gaspillage, on fait des économies sur l'emballage, on fait des économies sur les frais de crédit. Mm. Tu sais, souvent, je dis, au lieu de focusser sur le prix du légume, où va notre argent? C'est quand on dépense un dollar en épicerie, là, on paye 58% peut-être de gaspillage, puis on paye de l'emballage, puis de l'emballage de distribution, de l'emballage de présentation. On paye une bâtisse qui est ouverte à l'année, des gros stationnements. On paye tout pour ça. On paye pour énormément de publicité. Quand on s'abonne à un panier bio, tu sais, on paye des salaires locaux. On paye des semences, du compost. Tu sais. Moi, je disais qu'il faut arrêter de focusser sur combien coûte l'aliment, mais il faut focusser sur l'argent qu'on met dans cet aliment-là. Il est distribué comment? Ça s'en va à qui? Ça sort-tu du pays? Ça s'en va des paradis fiscaux?
Puis bio, en plus, on nommera pas tout l'argent qui est investi dans l'agriculture traditionnelle, conventionnelle.
Mm-hmm.
Mais ton brocoli bio à toi, je suis pas mal sûr qu'il est pas plus cher qu'un brocoli conventionnel d'épicerie si je te l'achète directement. Je dois pas trop me tromper. On n'est pas loin dans l'écart, là.
Il faut quand même se comparer à l'épicerie, puis c'est bien dommage parce que mon brocoli, moi, je le vends à perte. Fait qu'il est pas cher, mais je le vends à perte.
Ben, j'ai pas pris le bon exemple.
Comme je fais. Mais non, mais c'est un bon exemple parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que je suis capable d'accepter de faire certaines productions qui sont moins payantes.
Ouais.
Parce que je les vends en panier. Fait que les gens payent pour un panier, ils veulent une certaine diversité. Du brocoli, comme c'est déficitaire, on va peut-être pas en mettre autant que les gens voudraient, mais on en met quand même un peu, tu sais, puis on arrive à un compromis. En fait, c'est ça qui arrive, c'est que la relation entre ce que le client veut puis ce que le producteur peut produire, il y a un dialogue, puis on arrive à une sorte de compromis. Puis on dit, OK, ça va être correct de produire de telle façon puis de le payer à tel prix pour un ensemble de produits, puis on adhère à la philosophie. Au lieu de ramener ça toujours à l'aliment, puis là, on va comparer une carotte avec une autre carotte basée uniquement sur le prix, ouais, sans prendre en considération tous les autres facteurs.
Mais pour démystifier un peu, c'est ça, pour éduquer le consommateur, si je prends un panier biologique que je t'achète directement, puis je vais chercher à peu près le même panier en épicerie conventionnelle, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est plus cher, mais moi, j'ai l'impression qu'on va arriver au même, là, sans avoir toute l'empreinte négative du conventionnel épicerie qui vient de loin, finalement. Là. Tu me suis dans mes réflexions?
Oui, okay. Ouais, les gens tu sais, il y a aussi de... Si tu vas à l'épicerie, tu vas peut-être en acheter moins des légumes, puis tu vas remplir ton panier de plein d'autres produits transformés qui coûtent cher, qui sont pas bons pour... Fait qu'il y a aussi tout ça aussi, de sortir de l'épicerie, ça change complètement le mode d'alimentation. Ça coûte pas tant plus cher, puis surtout, tu sais, si tu vas pas juste chercher des légumes, tu vas chercher des trucs pour ne rien perdre de tes légumes, mais t'en as encore plus pour ton argent. Fait que tu faut toujours voir ça au niveau global, plutôt que de ramener ça tout le temps au prix. T'sais, la marchandisation de l'alimentation, je pense que c'est ça qui amène tous les désastres écologiques en agriculture, là, de ramener ça au prix. T'sais. Puis t'sais, j'aime bien aussi quand les gens sont outrés des modes de production dans le conventionnel, surtout dans les productions animales. J'aime bien rappeler que c'est parce que les gens veulent du jambon pas cher que c'est comme ça que ça se produit. Les producteurs, ils font ce que l'industrie leur demande. Ouais. Fait que si on encourage cette industrie-là, ben on encourage cette agriculture-là aussi. Je pense que la plupart des producteurs aimeraient avoir des pratiques plus écologiques puis pouvoir offrir plus de bien-être à leurs animaux. Ils ne peuvent pas.
Ouais.
Parce qu'on leur demande juste un bas prix.
Ouais, moi, je pense pas qu'ils se lèvent le matin en se frottant les mains comme Gargamel, puis en se disant, on va polluer plus aujourd'hui, comment qu'on pourrait faire, là? Ils ont vraiment
L'approche de leur taper sur la tête, puis de les faire sentir coupables, ça amène juste à de la détresse psychologique puis des suicides. Ça amène pas de solution, ça.
Ouais,
surtout quand ton seul contact avec l'agriculteur, c'est que tu le vois dans le champ, puis tu remarques une odeur, mais quand si tu l'as rencontré au marché ou en prenant ton panier, ben là, t'es plus empathique, puis tu le vois bien là, que c'est pas un méchant. Là. C'est ça. C'est toi qui achètes à l'épicerie, le méchant.
Ouais, puis c'est ça, je dis, ce qui est beau dans l'agriculture de proximité, c'est qu'on ramène l'humain au cœur de la relation économique. Là.
Ouais.
On réhumanise. Ça, nos relations.
C'est du développement durable, c'est cool. Fait que dans le fond, tes abonnés, ils s'approprient ta personne. Hein. C'est eux autres qui t'appellent ma fermière de famille. Tandis que les gens au marché, eux autres, t'es une fermière, peut-être parmi tant d'autres, je sais pas. Mais c'est encore le lien est encore plus fort là, entre vous deux, là, finalement. C'est cool, c'est beau, ça.
Oui, moi ça, je trouve ça émouvant là, quand je vois les familles qui viennent année après année, les enfants qui grandissent, je les ai vus naître, puis je les ai amadoués à coups de carottes puis de tomates cerises, puis qui me croisent dans le village puis qui me font un câlin. Moi, je capote là, quand ces moments-là arrivent, je me dis « ok, wow, c'est bien plus que... » C'est pour ça que je dis que je suis fermière de famille, je suis pas juste une productrice. Là. Mm-hmm. Mon rôle, c'est vraiment pas juste produire. Là.
Ouais, c'est beau.
Ah, une chance qu'on s'aime.
Ah! Oh.
Merci, Véronique, de nous partager. Mais moi, ce qui m'émeut, moi, c'est les bottines qui suivent les babines. Là, tu le fais, là, ce dont tu fais la promotion, tu as les mains dedans, tu le vois que ça marche. C'est pas utopique, c'est pas juste de la philosophie. Fait que merci là, d'être une participante là, à cet avenir vert-là.
C'est cohérent, c'est de la belle cohérence, c'est vraiment inspirant. Fait que, en tout cas, moi je suis content. On a toutes sortes de monde cette année à la saison, puis ça reste un podcast sur le jardinage, mais c'est ça, d'avoir des professionnels. Là, dans ton cas, t'es à mon avis une super maraîchère, fait que une super fermière de famille, fait que ça donne un autre angle. Puis c'est ça, regarde, si vous êtes pas capable de faire des brocolis, ben il y a des Véroniques un peu partout au Québec, puis aller leur acheter leurs brocolis à eux. Ben, c'est pas le bon exemple. Il est pas payant, lui. Alors, on va trouver un autre exemple, Véronique. Tu veux juste nous en suggérer un, puis on va tabler sur un autre légume que tu préfères ou qui est difficile à faire que toi, tu réussis. J'ai le chou-fleur souvent en tête, là, mais Je sais pas si c'est un autre bon exemple.
Nous autres, notre légume vedette, c'est la carotte dans le champ, puis le gingembre en serre, là.
Wow!
Mais tu sais, on est bon pour produire de la carotte, on est mécanisé aussi pour en faire beaucoup, bien l'entreposer, puis pouvoir en offrir à l'année, là. Puis on travaille sur des beaux projets aussi pour essayer d'approvisionner des CPE. Moi, je rêve que les enfants mangent, dans ma communauté, mangent des crudités de carottes, puis... des carottes qui goûtent quelque chose, là, pas les carottes insipides là, qui sont en forme de mini-carottes. Là.
Ouais. Hey, ça, c'est fou. La France, elle a décidé d'emboîter le pas là-dessus puis d'obliger un gros pourcentage, finalement, de légumes locaux. T'sais. C'est peut-être le... En tout cas, ça, c'est un step. Ça serait de la cohérence là, au niveau de l'État si on allait dans cette voie-là. Les bio locaux l'ont fait aussi avec l'hôpital Sainte-Justine. T'sais. Oui. Chapeau, ça, c'est un super projet, là. Mais tu fais bien de le mentionner. Puis moi, carottes et gingembre, ça m'inspire. Des carottes glacées au miel avec un peu de gingembre, un peu d'oignon vert. Puis tout ça, c'est tous des aliments québécois là, qu'on trouve facilement, même en dehors des saisons. Du gingembre congelé, j'en ai encore plein le frigo. C'est un aliment qui est facile.
Ah oui, quand on découvre la congélation, c'est extraordinaire, entre autres pour le gingembre. Là, j'en perds pas un gramme depuis que j'ai découvert que ça se congèle. Puis ça se rend super bien congelé. On l'a au congélateur, puis... zéro perte.
Encore mieux, hein?
Oui.
Politiquement, je terminerai avec une dernière question, Véronique. Est-ce que politiquement, tu penses qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait là, pour rendre ça plus synergique, là, ce concept-là de panier puis d'alimentation locale?
Bien, c'est sûr qu'il faut revoir le soutien à l'agriculture. Là, pour l'instant, on soutient une agriculture plus industrielle. Puis c'est comme si on ne fait pas confiance aux producteurs de comment les soutenir. Ça me fait penser beaucoup au développement international. C'est au lieu de faire confiance aux pays du Sud, de savoir comment ils pourraient bien utiliser leur argent, on décide qu'ils vont dépenser leur argent là-dedans. Fait que là, au Québec, on est là-dedans. On va subventionner tel équipement. Fait que là, tout le monde se lance, achète tel équipement. Qui fait de l'argent? Le vendeur d'équipement.
Mm-hmm.
Finalement, l'équipement est double de prix. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? On a dépensé de l'argent public, on a tous orienté tout le monde à la même place, alors que l'agroécologie, c'est un design qu'on doit faire adapté à notre échelle. Et la ferme agroécologique à Mont-Tremblant ne sera pas la ferme agroécologique au centre du Québec et ne sera pas la ferme agroécologique en Gaspésie. Donc moi, je faudrait ne serait-ce que des subventions salariales.
Mm-hmm.
En agriculture bio, moi, c'est 56 % de mes charges. C'est énorme. Mais si je peux avoir des subventions salariales, ben moi, ça me permet de pouvoir offrir des salaires. Ça me permettrait de pouvoir offrir des salaires plus décents parce que, bon, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé.
Ouais.
Mais tout le monde qui travaille sur une ferme bio diversifiée au Québec travaille à la moitié du salaire qu'il pourrait faire s'il allait travailler ailleurs.
C'est fou, hein?
C'est fou, là. Ouais. Tu sais, moi, demain matin, je vais travailler ailleurs, je gagne le double de mon salaire. C'est la même chose pour chacun de mes employés. Puis on le fait par besoin de cohérence, par besoin de sens, mais on endosse directement, en réduction du salaire, la mission sociale et écologique. C'est ça qui devrait être subventionné pour qu'on puisse avoir des salaires décents et qu'on ne se ramasse pas parce qu'on s'en va vers ça avec de la main-d'œuvre étrangère.
Ouais.
Sur les fermes, parce que là, ça a commencé dans des récoltes ponctuelles. Puis là, c'est rendu que les fermes laitières, mais même les fermes maraîchères bio, embauchent de plus en plus de travailleurs étrangers. Oui. Ben, tu sais, si on veut bâtir des communautés locales, résilientes, moi, je pense qu'on devrait pas dépendre de systèmes. Tu sais, puis si on fait venir des gens ici, c'est parce qu'il y a des inégalités qui font en sorte que des gens acceptent de venir faire du travail répétitif sous-payé.
Ici, les inégalités qui sont encouragées par cette alimentation-là qui vient du bout du monde, tu sais, c'est ironique, hein?
C'est ironique, puis c'est un peu comme, tu sais, si on avait une alimentation qui reflète les coûts de production, ben les légumes seraient probablement plus chers. Mais parce qu'on importe des légumes pas chers, là, ça baisse le prix, ça fait en sorte qu'on n'a pas des salaires qui sont compétitifs. Puis là, au lieu de, tu sais, avec l'offre et la demande, on nous dit que c'est ça qui est supposé tout régler le problème, de dire, bon, ben, tu sais, si c'est, il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent aller travailler dans les mines dans le nord du Québec, on augmente les salaires puis on trouve du monde. Mais en agriculture, au lieu de dire, ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut aller travailler en agriculture, il faudrait augmenter les salaires pour attirer du monde. Ben, on fait venir du monde d'extérieur qui accepte de travailler au salaire minimum. Donc, on tire le prix vers le plus bas puis on tire toujours nos salaires vers le salaire minimum. Donc, moi, je pense que ça prendrait de la subvention salariale plutôt que de la subvention aux équipements qui, finalement, ne bénéficient jamais aux producteurs et souvent même pas aux consommateurs. Ils vont bénéficier à ceux qui vendent les équipements.
Hey, je vais essayer de te citer là, en conférence, c'est ça, je t'avais entendu bien le dire, mais on fait venir un brocoli californien, mais on fait pas venir un plombier ou un électricien californien ouais. quand on a un bug dans la maison. Fait que l'ouvrier agricole, lui, on le paye pas, puis au juste prix, puis souvent son niveau d'éducation est égal ou même supérieur, finalement, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des DEP là, au niveau des études. Là. Fait que ça m'avait marqué quand tu avais dit ça, puis je pense que je le redis aux élèves à qui j'enseigne là, à chaque année, parce que c'est hallucinant quand on se met à penser de cette façon-là, là. Comment que c'est logique.
Ben, il y a des secteurs d'économie qui sont mondialisés, puis d'autres pas. Puis il y a des bons salaires, puis des bonnes conditions de travail dans la construction, parce qu'on fait pas venir des travailleurs de la construction de d'autres pays en agricole. Nous, on a ouvert les vannes de la mondialisation, donc on est pris dans... Puis c'est là que je trouve que l'agriculture soutenue par la communauté permet de se sortir de cette logique-là et de bâtir quelque chose autrement. Puis je pense que, tu sais, ce qui va nous aider, c'est de bâtir des communautés qui viennent aussi, tu sais, faire du bénévolat sur la ferme. Nous, nos abonnés, ils viennent aussi désherber en champ des fois avec nous. On fait des corvées festives. Fait que les gens viennent, ils trouvent ça agréable, mais ça les conscientise. Ils nous aident pour vrai. Mm-hmm. Puis ça les ramène... Tu sais, les mains à la terre, ça leur fait du bien. Les gens viennent faire du bénévolat sur la ferme, puis m'écrivent pour me dire merci. Merci pour la belle après-midi. Tu sais, ils repartent, puis sont tout sourires, sont contents d'avoir vécu quelque chose. Mais ça, c'est un beau modèle parce que quand on parle, tu sais, de difficultés de main-d'œuvre, puis de salaire, plus les gens vont venir mettre les mains à la terre avec nous, plus nous, les professionnels de l'agriculture, on va peut-être pouvoir se dégager éventuellement des salaires plus intéressants. Fait. On travaille là-dessus en ce moment au réseau des fermiers de famille à amener nos abonnés à être plus que des consommateurs, mais à être des citoyens engagés à différents niveaux, là, revendications politiques, mais aussi venez dans le champ avec nous, venez vivre notre réalité, venez vivre cette expérience-là aussi, venez partager ce plaisir-là d'avoir les mains dans la terre.
Oui, papa!
Yeah!
J'embarque, c'est bon, je déménage dans votre coin.
Tous bienvenus.
Merci beaucoup, Véronique Bouchard de la ferme aux petits oignons, autrice du livre Cuisiner sans recette et extraordinaire maraîchère, avec même conférencière, je l'apprends. En tout cas, bref, tu es une rassembleuse, puis ça se sentait là, dans ton discours aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence à Une chance qu'on sème.
Merci de votre accueil et pour les belles discussions et beaux échanges. Merci aussi de partager, de semer des graines de bonheur.
Oh.